Dans la rubrique historique de ce mercredi, nous vous proposons la seconde partie de l'entretien réalisé avec Anita Rind, ancienne correspondante du Monde, auteure d'un ouvrage intitulé « Ainsi étions-nous » sorti aux éditions Gausen en 2010. Dans la première partie de cet entretien, Anita Rind avait évoqué les origines de sa famille en Tchécoslovaquie, sa naissance en France, le temps du bonheur des vacances d'été lorsqu'avec son frère et sa sœur, il se rendait à la maison familiale de Kaplice. Puis la guerre, l'occupation et la survie miraculeuse d'Erind à la déportation après avoir vécu caché pendant toute la durée du conflit. La famille restée en Tchécoslovaquie n'a pas eu cette chance. Et très vite, Anita Rind s'est donné pour objectif de retrouver les traces de ses proches exterminés par la fureur nazie. On écoute Anita Rind au micro d'Anna Kubishta.
Chapitre de l'histoire.
Anita Rind, à 14 ans, finalement, vous décidez, plus ou moins consciemment, de mener un jour une quête pour retrouver les gens de cette famille. Alors cette quête, elle commence à la fin des années 70. Votre mari et vous-même êtes en poste à Vienne à ce moment-là, entre 74 et 79, si je ne me trompe pas.
Oui, 1980, on est parti.
Ou 1980, voilà. Oui. Vous êtes tous les deux en poste à Vienne justement, vous-même vous intéressez à la condition des femmes en Europe. Europe de l'Est, hein, en tant que journaliste. Alors après des difficultés avec l'administration communiste tchécoslovaque, vous allez quand même réussir à vous rendre en Tchécoslovaquie, mais en tant que touriste. Alors c'est un peu les premières retrouvailles en fait avec votre pays d'origine.
Absolument, c'est 40 ans après quasiment, parce que j'étais en 79 et j'avais quitté en 38 petite fille, et donc j'ai obtenu un visa touristique. Alors que les Tchèques, le consulat tchèque à Vienne, me refusait toute entrée en Tchécoslovaquie en disant personne ne parle français, c'est pas la peine d'y aller. Et mon mari était lui aussi interdit, il avait plus de visa parce qu'il s'occupait de la charte 77 et des dissidents.
Donc vous n'étiez pas forcément des personnes que les communistes accueilleraient facilement, voilà.
Non, pas du tout. Et mon mari a obtenu un visa. Parce qu'il y a eu une délégation du président de la République, Rudolf Kirchschläger, qui est parti à Prague et qui a mis Manuel sur la liste. Donc c'est grâce à eux qu'il a de nouveau obtenu un visa. Lui, en juin 79, ma fille Laurence et moi, nous avons obtenu un visa touristique. Alors que Manuel, lui, il a eu un visa de journaliste. Donc on est arrivé en Tchécoslovaquie. Moi, on est parti en voiture de Vienne parce qu'on voulait faire tout ce trajet. Et on a fait des kilomètres, des centaines de kilomètres dans le pays.
Et alors quel a été le fruit de vos recherches à ce moment-là? Puisque c'est alors, là que vous vous êtes vraiment lancé finalement dans cette quête.
Absolument, parce que quand j'avais exactement 6 noms. Donc les deux sœurs de maman, le mari de l'une d'elles, deux oncles et la meilleure amie de maman. Donc la première chose qu'on a fait le lendemain de notre arrivée, à l'époque c'était sous le régime communiste, c'est d'aller à Maïslova 18, dite la mairie juive, la maison communautaire juive, où j'ai vu le secrétaire général de la mairie, et je parlais pas le tchèque, et donc j'ai parlé moitié anglais, moitié allemand, et j'ai demandé quelqu'un qui pourrait m'aider à retrouver des gens morts de ma famille dans les camps de déportation. Et donc le monsieur m'a reçu très gentiment et m'a tout de suite mis en contact avec une vieille dame octogénaire, une merveille des merveilles qui était chargée des archives. Elle est morte d'ailleurs un an après, en 1980. Elle s'appelait Vera Gruberova. Je suis allée au deuxième étage, il y avait la cartothèque, donc les archives de la maison juive. Je suis arrivée devant la porte, je suis restée pétrifiée. Maintenant ça a changé, mais à l'époque les murs étaient comme des placards de notaire, si vous voulez, avec des tiroirs, des milliers de fiches. Je suis restée pétrifiée sur le pas de la porte. J'ai demandé à Vera Gruberova si ma fille pouvait m'accompagner, parce que j'étais très angoissée, et elle m'a dit oui. Et puis je lui ai donné les noms, elle a commencé à m'aider à chercher. Il y avait beaucoup d'homonymies, des Adler en particulier, c'est comme les Martin chez nous. J'ai trouvé quelques renseignements, mais pas tout. J'étais tellement pétrifiée, je voulais recopier, elle a été adorable, elle m'a permis de photocopier tout ce qu'elle avait trouvé. Donc j'avais des photocopies des fiches que j'ai gardées précieusement. Elle m'a parlé déjà bien avant tout le monde de la Shoah par balle. Mais ça m'a échappé, je ne m'en suis pas occupée tout de suite.
On parle de la Shoah par balle notamment pour les pays baltes, hein.
C'est ça, c'est-à-dire que ma tante Erna, je l'ai appris parce que c'est une des premières fiches que j'ai eues. Elle a fait partie du premier transport européen, Prague-Térésine. Et elle est partie avec la meilleure amie de maman. Et de Térésine, 3 mois après, elles sont parties en janvier 1942 en Lettonie. Et on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas si c'était Salaspils. Mais moi, je me suis réveillée bien plus tard avec cette histoire des camps dans les pays baltes. Et puis après, bon, bah, j'ai tiré les fils et j'ai trouvé les fiches de la sœur de maman, de son mari. Ils sont partis tous les deux à Izbica, un camp terrifiant dont parle Jan Karski.
Qui était voilà. Polonais, oui. Oui, et puis il y a eu un ouvrage récemment qui est sorti, et puis il y a toute une polémique avec Claude Lanzmann autour du roman.
Il a corrigé ensuite, en fait, la polémique, c'est pas avec Jan Karski.
C'est avec Yannick Enel, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Mais moi, grâce à Yannick Enel, le rapport de Jan Karski intégral, avec des compléments d'historiens passionnants, est sorti, a été réédité en France. Mmh. Et moi, j'ai appris comme ça beaucoup de choses, même sur la Pologne, dont je savais pas assez de choses et où j'avais des idées fausses sur ce pays.
Il faut rappeler quand même que vos recherches en tout et pour tout, à partir du moment, pas forcément à partir du moment où vous avez décidé, en tant que jeune adolescente, de vous lancer un jour dans ces recherches familiales, mais disons, en gros, à partir du moment où vous avez commencé vos recherches dans les années 70, s'étale en gros sur une trentaine d'années. Vous êtes revenu pour la dernière fois en 2008, en République tchèque désormais, puisque ce n'est plus la Tchécoslovaquie. Alors, quelles sont un peu, finalement, après toutes ces recherches, puisque vous avez retrouvé évidemment bien d'autres personnes, également grâce au mémorial Yad Vashem, quelles sont un peu vos impressions après cette quête ininterrompue, et puis alors à la fois sur la République tchèque, sur la terre aussi de vos ancêtres, et puis finalement sur les résultats que vous avez obtenus.
Quand j'ai écrit ce livre, j'ai décidé d'écrire ce livre après tant d'années de recherche. Elle était double. La première, c'était de rendre leur honneur et d'honorer des êtres chers qui étaient disparus au nom d'un racisme fanatique et criminel. Et le deuxième, je me suis dit, avec ce livre, je vais pouvoir faire réintégrer dans la communauté humaine des êtres qu'on a voulu sortir de la communauté humaine uniquement par racisme, d'une façon un peu criminelle.
Et puis c'est les faire revivre pour d'autres personnes également, enfin pour ceux qui ne les ont pas connus, enfin nous lecteurs d'une certaine façon, qui pouvons découvrir aussi cette histoire-là.
Absolument, et puis au départ c'était pour ma famille, parce que j'ai d'abord auto-édité ce livre. J'étais très surprise qu'un éditeur s'intéresse à mon livre et ensuite qu'il sorte, et en plus, tout récemment, quand Jacques Frech, le directeur du mémorial de la Shoah à Paris, auquel mon éditeur avait envoyé mon livre, m'a envoyé une lettre absolument adorable en me disant « Mais écoutez, tout ce que vous racontez, avec tous les documents que vous avez, c'est transnational, accepteriez-vous de nous donner vos documents ?» J'ai dit oui, il m'a mis en contact avec la responsable de la photothèque du mémorial de la Shoah à Paris. Alors elle pensait qu'il y avait quelques photos, etc. Elle est restée 3 heures à la maison, elle a dit « c'est pas une page qu'il faut faire, c'est créer un fonds, et c'est un fonds à mon nom ». Je suis heureuse, vous pouvez pas savoir, parce que j'ai donné tous les originaux, je sais que personne s'en occupera après. Ça fait partie de la vie, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas parce que les gens s'en fichent, ou la famille s'en fiche, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, ils posent ça dans un coin. Surtout, c'est ouvert, j'ai décidé, ils m'ont dit, vous voulez l'ouvrir au grand public, aux chercheurs, aux historiens? J'ai dit oui, tout, parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Et je ne suis qu'un tout petit maillon dans la chaîne de l'histoire et de la lutte contre l'oubli. Voilà. Et ça, c'est très récent. Et donc, je suis très heureuse de ça.
Donc ça, c'est finalement une extension de votre travail. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, finalement, à partir de ces recherches des années 70, dans cette espèce de cartoteca, comme vous dites, ces archives quasiment glaçantes que vous avez décrites, et puis finalement cette ouverture vers le monde. Enfin, c'est quasiment une espèce d'épiphanie par rapport
au
début.
Vous avez raison, parce que pour moi, j'ose pas vous le dire, c'est pas la peine peut-être de me le faire, j'en sais rien. Pour moi, c'est mieux qu'un prix Nobel, que n'importe quoi, parce que je sais maintenant, je peux mourir tranquille, parce que je suis une vieille dame, mais je peux mourir tranquille, je sais qu'il y aura quelque chose qui restera pour la chaîne de l'histoire. Un tout petit maillon, parce qu'il y a tellement d'autres livres, il y a des milliers de livres au mémorial de la Shoah.
Anita Rindt, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Thank you.